réalité. Vous êtes lesbienne.
Not all queer.
Oh là là, c'est la décadence.
Not all queer.
La décadence.
Not all queer.
Salut tout le monde, c'est Scandale et je suis très ravi, happy de vous trouver pour ce tout premier épisode de Not All Queer, un podcast qui va aborder des problématiques et des thématiques queer. Et pour le faire, je ne suis pas seul, mais je suis super bien entouré. Je suis notamment entouré de la personne qui partage ma vie depuis maintenant de nombreuses années, Coco Chapeau, notre drag queer strasbourgeoise qui anime nos nuits et qui aime un peu montrer son popotin, hein, on peut le dire. Comment tu vas, Coco ?
Coucou, ça va. J'ai montré mon popotin qu'une seule fois d'ailleurs, je tiens à le souligner, même si j'ai cette réputation.
Oui, mais c'est une fois qui a quand même marqué les esprits, visiblement. Alors avec nous, il y a aussi une amie que j'aime depuis tant d'années et que je suis tellement ravie d'avoir avec nous et qui sera avec nous pour tous les épisodes du podcast, parce que ce podcast, ben, c'est aussi un peu son initiative, et c'est Sacha. Salut Sacha, comment tu vas ?
Bonjour, bonjour, c'est moi Sacha, votre créature de vos nuits, de toujours, de... c'est moi, Sacha. Je vais très bien, merci. Très heureuse et hâte de commencer cette aventure avec vous deux. Voilà, très heureuse.
C'est quoi votre météo du jour ?
Grand soleil et j'irai une petite brise printanière bien sympathique qui rafraîchit. Voilà.
Moi, c'est une aube qui pointe doucement, c'est le réveil doucement. Après une nuit bien agitée, un coucher à 5h du matin, heureusement que c'est le week-end. Et toi, Scandale ?
Ça va. En tout cas, ça va super bien depuis que je suis avec vous deux, là, autour de nos petits micros. J'avoue que ça me fait du bien, donc je dirais que ça va plutôt bien. Météo du jour, soleil, un peu de fraîcheur quand même. Eh ben, merci vraiment à vous deux d'être là pour ce petit projet commun qui me tient beaucoup à cœur, et je sais que ça vous tient à cœur aussi. Parce que ben, c'est clair que quand on appartient au monde queer, et c'est ce que la plupart des personnes qui ne sont pas du monde queer ne comprennent pas, on rencontre quand même un certain nombre de problématiques dans la vie de tous les jours que ne rencontrent pas les personnes qui ne sont pas concernées par les problématiques LGBT. Et justement, ben, en parlant ensemble, on s'était dit qu'on allait s'arrêter peut-être pour ce premier épisode sur une thématique qui est assez importante finalement dans la vie d'une personne queer. Et cette thématique, c'est le coming in. Alors, est-ce que l'une de vous deux a envie d'expliquer déjà à nos auditeurices ce que c'est qu'un coming in ? Allez, Coco Chapeau !
Alors, le coming in, c'est vrai qu'on parle beaucoup du coming out, donc le fait de sortir du placard, comme on dit, de se révéler queer pour ses proches ou moins proches. Mais on parle assez peu du coming in, qui est tout aussi important. C'est le fait, en fait, de se révéler à soi-même, de s'accepter soi-même en tant que personne queer. Et ça, c'est pas toujours évident, parce qu'on a souvent peur du regard des autres, mais là, il faut affronter son propre regard et prendre conscience de qui l'on est, et c'est pas toujours évident.
C'est vrai qu'on en parle pas beaucoup du coming in, mais c'est important d'en parler parce que je pense que c'est un long cheminement également, voire même plus que le coming out. Pour ma part en tout cas, moi qui suis femme trans, c'est vrai que le coming in a été un cheminement plus long que le coming out. J'ai fait mon coming out, enfin si on veut coming out, en tant que personne homosexuelle avant que je transitionne. Mais c'est vrai que mon coming out trans est arrivé beaucoup plus tard, parce que justement j'ai eu ce coming in aussi, ce cheminement plus tardivement, effectivement, ouais. J'ai eu un long parcours et j'ai dû d'abord faire un gros travail sur moi avant de pouvoir faire ce coming out en tant que femme trans, voilà.
Merci à vous deux pour ces explications. Alors, on va revenir un petit peu dans le détail sur tout ça au fil de l'épisode, parce que je pense que c'est important. Une chose qu'on partage tous ensemble, c'est que on est passé par ces phases de se comprendre soi-même, de se révéler à soi-même. Je pense qu'on va, on va beaucoup aborder pendant cet épisode la question du coming in en termes de transidentité, parce que c'est quelque chose qui nous concerne et qui est pas forcément évident. Et ce que tu viens de dire, Sacha, ça résonne beaucoup en moi, et c'est quelque chose que j'entends souvent de la part de beaucoup de personnes queer, c'est le fait que très souvent, on commence par se dire homosexuel, par cibler vraiment notre réflexion autour de notre orientation sexuelle, et non pas autour de notre identité de genre. Coco, ça a été ton cas aussi, toi ?
Oui, tout à fait. Moi aussi, ça a été mon cas et ça a même été aussi assez long comme coming in de prendre conscience de mon homosexualité parce que, à l'adolescence, harcèlement, etc. Avant même que je ne prenne conscience moi-même de qui j'étais, j'étais déjà discriminé pour ça parce que je ne rentrais pas dans les cases de la virilité, de la masculinité. Et donc, quand ça s'est révélé à moi, ça a été très très dur à process. Parce que j'avais ce regard très négatif sur ces choses-là. Et donc, ça s'est fait de manière très graduelle, où d'abord c'était un refus, un déni. Puis, je suis peut-être bisexuel. Après, bisexuel, mais plus avec une tendance homosexuelle. Et puis enfin, l'acceptation de mon homosexualité, en tout cas à l'époque. Et le cheminement sur mon genre a été encore plus long. Ça m'a pris 30, 31 ans.
Alors ça peut être bien qu'on y aille justement par étapes, en revenant d'abord à cette adolescence, parce que quand tu parles Coco, c'est vrai que Sacha et moi on sourit parce qu'on se reconnaît beaucoup, je pense, là-dedans. C'est vraiment des parcours... assez typique, je pense, pour une personne queer. Est-ce qu'à l'adolescence, toi aussi, Sacha, tu as vécu des formes de harcèlement, de discrimination, et est-ce que ça a été pour toi un frein ou une aide à la prise de conscience de certaines choses à l'époque où tu te disais homosexuel ?
Alors, c'est très drôle parce que dans le parcours de Coco, je me suis beaucoup identifiée. J'ai toujours eu un aspect très androgyne quand j'étais plus jeune. Justement, j'étais en train de me dire, quand Coco parlait, moi, à mon adolescence, je me souviens ne pas avoir fait mon coming out, mais par contre, les gens qui m'entouraient faisaient mon coming out dans un certain sens. J'ai toujours été call out en tant que personne homosexuelle. C'est vrai que, du coup, le coming in, justement, a pris plus de temps. Vu que j'endurais des insultes et des reproches envers ma personnalité, c'est vrai que le coming in, je ne voulais pas y faire face. Je vivais dans le déni, littéralement. Et le coming in est venu bien plus tard, effectivement, en essayant de faire le cheminement de mon côté. Mais oui, c'est délicat, en fait, d'entreprendre ce parcours quand on attend d'éléments extérieurs qui viennent parasiter, en fait, notre cheminement de pensée.
Alors, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Et en fait, ce cheminement est rendu beaucoup plus... difficile quand on a un démarrage de prise de conscience dû au harcèlement et à la discrimination, parce qu'en fait, quand on en vient à prendre conscience de ça, il y a une part de nous qui se dit « ils ont raison ». Et donc, ces moqueries, ces insultes, etc., si je suis la personne qu'ils disent, en fait, je les mérite. Alors qu'en fait, non. Mais en tant que jeune adolescente qui se construit, on se dit « Ah, mais quand on en prend conscience, ah, mais en fait, je suis cet être qu'on perçoit via les insultes et les remarques. » Et donc, c'est ça qui rend la chose compliquée, parce qu'on se dit « Mais en fait, c'est justifié, parce qu'en fait, je suis homosexuel, par exemple. » Et du coup, ça rend la chose beaucoup plus compliquée à gérer, d'en prendre conscience et surtout de l'accepter. Ça peut être un élément qui ne facilite pas le coming in, qui est déjà en soi pas toujours évident, mais quand il y a des bases qui sont très compliquées, ça peut générer un coming in d'autant plus compliqué.
Évidemment, je me reconnais beaucoup dans tout ce que vous dites là. Je crois que pour ma part, c'est un petit peu différent peut-être, parce que j'ai l'impression que le coming in en tant que personne homosexuelle à l'époque est venu extrêmement tôt pour moi. Je me suis très très vite aperçu qu'il y avait un petit bug par rapport aux autres ou par rapport à ce qu'on m'apprenait, vu que je viens d'une famille quand même extrêmement religieuse et que ces choses-là sont quand même extrêmement mal perçues. Une famille évangélique pentecôtiste, je vous laisse un peu imaginer ou faire des recherches si vous parvenez pas à imaginer. Ça vaut le détour, hein, les évangélistes. Mon coming in, il est du coup venu très rapidement. En revanche, ça n'a pas du tout été une bonne nouvelle pour moi. Le coming in, le fait de me rendre compte de ce qu'il y avait en moi et des tendances qu'il y avait en moi, la prise de conscience en elle-même, en fait, a été très facile. Je m'apercevais de ce que je ressentais, je m'apercevais de ce que je désirais et que d'autres mecs, à l'époque, ne désiraient pas. Par contre, l'acceptation dans le coming in, c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tardivement parce que ben moi, j'ai appris à lutter contre. Parce que les premières personnes auxquelles je m'en suis ouverte m'ont expliqué que ben, j'irais en enfer ou que j'étais malade et qu'il fallait que je guérisse. Et je dois dire que je pense que j'ai quand même un peu de persévérance parce que j'ai vraiment tout fait pour guérir. Évidemment, les personnes qui me connaissent savent que c'est un échec, hein. Ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas guéri. Au contraire, je crois que je me suis un petit peu empiré. Alors, j'aimerais bien savoir pour vous deux, est-ce que le moment de la prise de conscience et le moment de l'acceptation a été différé? Est-ce que quand vous en avez pris conscience vraiment, vous êtes parvenu à l'accepter? Ou est-ce que pour digérer l'information, ça a été encore un parcours du combattant pour vous, Sacha, peut-être?
Effectivement, tout à l'heure, quand je parlais de coming in qui prenait du temps, en réalité, le coming in, tu en prends conscience très rapidement. Enfin, pour ma part, ça a été le cas. Mais c'était vraiment le blocage total. Ce qui est assez dingue, en fait, c'est que j'en ai pris conscience. Je ne voulais pas l'accepter à cause justement de mon entourage, parce que je connaissais les conséquences d'un possible coming out. Et j'ai fait blocage, en fait, tout simplement. Pareil pour mon coming out et coming in en tant que personne transgenre. C'est venu aussi beaucoup plus tard, pas seulement à cause de l'entourage ou de comment ça aurait pu être perçu, mais aussi par la peur du processus peut-être, parce que pour ma part, j'ai un traitement hormonal de substitution, donc sous THS, et c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur en fait. Et là, c'est vraiment un travail sur moi-même, couper des énergies extérieures et laisser cette peur tomber, des conséquences sur ma santé par exemple, sur mon psychique. Et là, c'est juste moi et moi seule qui me bloquait en fait par rapport à ce coming in et ce coming out par la suite. Oui, c'est encore un aspect différent, je dirais, qu'à l'époque où j'ai fait mon coming out en tant qu'anciennement personne homosexuelle. C'est un cheminement vraiment très différent qui a mis beaucoup plus de temps parce que l'identité de genre reste quand même très différente de l'orientation sexuelle. Bon, même si j'en étais consciente de tout ça depuis mon très jeune âge, mais ça a fait beaucoup de cheminement et là c'était un travail avec moi et moi seule en fait.
Et toi Coco, du coup en termes de latence ou de différence entre le moment de la prise de conscience et de l'acceptation, comment tu l'as vécu au moment où vraiment tu as réussi à te dire à toi-même à l'époque où tu étais ado, ben, je suis probablement effectivement homo quand tu t'es mise à avoir tes premières affectivités, tes premiers désirs. Est-ce que tu l'as bien vécu? Est-ce que tu as décidé que ce serait quelque chose qui serait ok? Ou est-ce que tu es aussi passé par une phase de combativité contre toi-même?
Comme je l'ai dit, oui, ça a mis du temps. Alors, un temps relatif, mais un temps quand même où ben, j'ai eu ce besoin de faire les choses de manière progressive, on va dire, très maladroitement d'ailleurs aussi. Avec mes amis, on rigolait beaucoup parce qu'on disait que j'étais bisexuel, ascendant, homo. c'était la petite blague. Mais en fait, je me rends compte que moi, c'est par l'entourage choisi. Donc, les amis que j'avais, que j'ai eu la chance d'avoir à cette époque-là, qui m'ont aidé en fait, qui m'ont soutenu et qui m'ont montré qu'il n'y avait aucun problème, peu importe ma sexualité. Et bon, qui avait compris et accepté bien avant moi mon homosexualité à l'époque et qui m'ont du coup aidé à faire le process et à m'accepter sur mon orientation sexuelle. Et c'est vrai que, tu le disais très justement, Sacha, le coming in, en tout cas à mon endroit, te rejoint beaucoup parce que le coming in... sur mon orientation sexuelle et le coming in sur mon genre, ben c'est pas les mêmes mécanismes qui se jouent, ça s'est pas passé de la même façon et je pense que c'est dû à pas mal de choses, de vecteurs dans notre société parce que même si c'est globalement mal perçu, même si avec les années dans certains endroits ça va mieux, mais bon globalement ça fait pas encore l'unanimité, l'homosexualité c'est quelque chose dont on parle depuis plus longtemps. Les questions de genre, c'est quand même si ça existe depuis très 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 longtemps, dans nos sociétés, c'est quand même des questions, on va dire, qui sont abordées de manière publique, dans le domaine public et social, assez récentes. Et donc, c'était des questions que je ne me posais pas en soi, même si je sentais qu'il y avait un décalage. Mais j'avais pas les mots, j'avais pas les termes, j'avais pas les connaissances. C'est par le biais de l'homosexualité où ensuite, en grandissant, je me suis rapproché du milieu queer. Et c'est là que je me suis rendu compte de la pluralité des genres, que j'ai commencé à me renseigner, à découvrir la transidentité, etc. Et en fait, c'est tout ça qui m'a aidé et qui m'a permis aujourd'hui de prendre conscience de ma non-binarité transfemme. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, effectivement, ne vient pas appuyer sur les mêmes mécanismes, entre guillemets. Ça vient pas appuyer sur les mêmes endroits. Et se positionner sur son orientation sexuelle et se positionner sur son genre va pas questionner de la même manière. Et donc, ça change aussi la manière dont on va l'accepter.
C'est super intéressant ce que vous dites parce que moi, je trouve ça très important d'insister là-dessus, sur le fait que la question de l'orientation sexuelle et de la question de l'identité de genre, c'est pas du tout les mêmes biais cognitifs, c'est pas du tout les mêmes enjeux. L'orientation sexuelle, ça va déterminer nos relations affectives et sexuelles. L'identité de genre, ça nous ramène vraiment à ce qu'on est, à ce qu'on montre de nous socialement, à la façon dont on souhaite être perçu socialement. C'est pas du tout la même chose. Il y a des personnes homosexuelles qui ont besoin d'aucune forme de reconnaissance sociale et ça va être ok parce que dans leur intimité, ces personnes vont trouver des relations équilibrées. La question de la transidentité, c'est une question très sociale avec un enjeu derrière qui est extrêmement... d'une envergure quand même très différente. Donc c'est assez intéressant de remarquer ces différences-là et de remarquer aussi la latence qu'il y a entre le moment où on va avoir un propos sur l'orientation sexuelle et le moment où on va avoir une réflexion sur notre identité de genre. Et dans ce que vous dites, j'ai l'impression qu'il y a un biais qui est super important dans tout ça, c'est le biais politique. C'est le fait que socialement, quand on était ado, hein, on est de la même génération hein, tous ensemble, quand on était ado, on commençait quand même à libérer petit à petit la parole sur les questions d'orientation sexuelle. Je ne sais pas vous, mais les questions de transidentité, moi personnellement, histoire de faire un bon pléonasme, je dirais moi personnellement, j'avoue que j'ai fait partie, à une époque, de ces homos qui disaient « Non mais attendez, je suis homo, c'est pas pour ça que je suis pas un mec, hein. Je peux quand même être viril. » Il y a une époque où j'ai quand même voulu m'engager dans l'armée pour prouver que j'étais un bonhomme, un vrai. Il y a quand même un facteur politique qui est évident derrière tout ça. Moi, une autre question que j'aimerais quand même vous poser, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le coming in trouve son aboutissement dans le coming out ? Est-ce que vous ne trouvez pas que le moment où on sait qu'on s'est pleinement accepté, où on sait qu'on a décidé de se respecter suffisamment pour aller au bout du truc, est-ce que c'est pas le coming out pour vous qui fixe le moment où vous avez complètement admis le truc? Ou est-ce que pour vous, ça reste des choses dissociées? Dans ma question, il n'y a aucune, y a aucun préjugé, hein, y a aucune attente particulière. C'est une vraie question que je me pose, Coco, peut-être?
Oui, d'une certaine manière, et non d'une autre, mais... En tout cas, moi, le souci que j'ai eu dans mes deux coming in, et faire mon coming in et mon coming out homosexuel, j'avais la crainte vis-à-vis des personnes qui ne l'accepteraient pas, qui ne sont pas de la communauté LGBT. Le coming in sur ma question de genre, en fait, a été justement complexe dans le sens où je ne me sentais pas légitime et pas valide en tant que personne non-binaire, transfemme. Du coup, le coming out n'avait pas le même sens. Sur mon orientation sexuelle, je ne cherchais pas de légitimité. Je savais quelle était mon orientation et il n'y avait aucune question qui se posait là-dessus. Je savais que même en faisant mon coming out, ça pourrait générer la discrimination, etc., ou pas, parce qu'il faut aussi le rappeler, moi, dans mes parents, ça s'est très bien passé, j'ai eu cette chance. Mais du coup, il y avait aucune question de est-ce qu'ils vont vraiment remettre en question mon homosexualité. À aucun moment, je me suis dit ça. Alors que quand j'ai fait mon coming in et quand j'ai voulu faire mon coming out de personnes non-binaires transfemmes, je me suis dit, mais en fait, est-ce que je suis légitime? Est-ce que, parce que j'ai encore des attraits qu'on rattache à la masculinité, j'ai une barbe, une moustache, j'ai dans mon expression de genre des éléments qui se rattachent quand même à la masculinité. Et je suis à l'aise avec ça. Et donc j'étais en train de me dire, mais est-ce que est-ce qu'il n'y a pas des cases à cocher pour être perçu dans le bon genre et être accepté dans le bon genre? Et donc ça a été aussi tout un travail à cet endroit-là de me dire, si j'en parle, est-ce que les gens vont pas juste me dire « Non, mais en fait, tu dis n'importe quoi, t'es pas légitime pour être une personne transfemme, il faut ça. » Enfin, tout un panel de l'imaginaire que j'avais, en fait, et où je me disais « Mince, alors, est-ce que je sais pas d'où ça peut venir, est-ce que c'est véhiculé via les réseaux, via les médias, je ne sais pas, mais en fait c'est en côtoyant justement le milieu queer qu'à la fois, paradoxalement, j'avais ce manque de légitimité, enfin cette peur de ne pas être légitime, et en même temps, en voyant la pluralité des expressions de genre et des genres, où je me disais, mais en fait, si, je suis légitime. Et c'est en fait ce deuxième point qui m'a aidé à faire mon coming out. Et effectivement, à partir du moment où les choses sont dites, là c'était dans les deux cas, à partir du moment où on le dit à quelqu'un d'autre, à mon sens, ça prend un ancrage dans la réalité. C'est-à-dire que quand dans le coming in, on est face à soi-même et on peut tourner en boucle dans sa tête, se poser mille et une questions, y répondre, ne pas y répondre. Mais quand une fois que le coming in est là et est accepté, quand on en parle à quelqu'un d'autre, le fait de poser les mots et que ça soit entendu, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc, en ce sens, le coming out, effectivement, matérialise le coming in, je trouve. Not all queer.
Not all queer.
Et on est de retour dans Not All Queer, le podcast qui parle de thématiques queer, de problématiques queer. Et on en parle entre amis, on en parle entre amoureuses, on en parle entre, sans doute, amitié d'âme. On pourrait dire ça, Sacha, qu'est-ce que t'en penses?
Entre divinité,
au moins.
Hein. Au moins divinité, créature de beauté.
Sainte Trinité.
Sainte Trinité. Oh, c'est beau ça.
Ah, je suis pas la Vierge. Hein. Tu serais la divinité de quoi, toi, Sacha?
Bien sûr, la divinité de la beauté, de l'amour, Aphrodite.
Oh là là, en plus, c'est un beau tatouage quand même, un peu aphrodisiaque, un peu hermaphrodite, un peu...
Hermaphrodite, effectivement.
Merci. Bon, revenons à nos petits moutons avant la pause. Coco, tu nous expliquais que, à tes yeux, quelque chose qui a été compliqué pour toi dans ton coming in, c'était aussi... Alors, plus particulièrement pour le coup, pour la question de la transidentité, tu nous as expliqué que c'était la question de la légitimité, de la crédibilité. Tu nous as dit que pour toi, c'est quelque chose qui se posait pas tant pour tout ce qui concerne l'orientation sexuelle. Parce que, à tes yeux, l'entourage ne pouvait de toute façon pas remettre en question ce que tu ressentais à ce niveau-là, mais que les choses étaient un peu plus complexes quand même au niveau de la transidentité. Sacha, est-ce que toi, la question de la légitimité et de la crédibilité, Bah, c'est un truc que tu as ressenti aussi quand tu as commencé à cheminer. C'est vrai que tu nous as parlé tout à l'heure des désordres psy que tu avais causé, la distance que tu avais mis en fait entre toi et toi-même. Des désordres quand même importants. Enfin, je le sais, je t'ai vu aussi dans des états assez compliqués. On va pas se mentir. Est-ce que la question de la légitimité intervenait pour toi dans ces moments-là ?
Oui, effectivement. Bien sûr qu'elle intervenait dans ces moments-là. Mais c'est assez compliqué parce que du coup, pendant ma transition, j'ai eu un cheminement assez étrange de pensée où je me disais « Oui, mais t'es pas sous traitement hormonal de substitution, donc tu n'es pas légitime à être transgenre, donc tu n'as pas à faire de coming out. » Et j'ai fait mon coming out avant d'être sous THS. Et c'est quelque chose qui m'a fait travailler parce que j'ai eu un petit doute où je me suis dit, est-ce que t'es réellement légitime à te dire en tant que femme transgenre alors que tu n'es sous aucun traitement, que tu n'as... J'avais entrepris le cheminement mental, mais pas d'une façon en fait matérielle, je veux dire. Pas de traitement médicamenté ou quoi que ce soit. J'ai eu des doutes, pas forcément par rapport à moi, parce qu'à un moment, j'étais sûre à 100% d'être une femme transgenre, mais de la façon dont les personnes allaient me percevoir, oui, effectivement. Je me suis dit, tu fais ton coming out, mais tu n'as pas entrepris de traitement hormonal pour l'instant. Comment les gens vont te voir ? Est-ce qu'ils vont penser que c'est une blague ou,
Mais si je peux me permettre juste, Sacha, ça, c'est une question, j'ai l'impression, hein, qui va se poser essentiellement dans les milieux queer. La question du traitement hormonal. Parce que si tu vas dire, par exemple, à tes parents « Je suis une femme », ils vont pas se poser la question, tes parents, de savoir si t'es déjà hormonée et tout ça. Est-ce que t'as pas l'impression que les angoisses que t'as eues, elles étaient plus propres aux personnes trans que tu connaissais déjà, à la communauté queer, à la façon dont la communauté peut parfois fixer des critères dans lesquels tu te retrouvais pas toi ?
Oui, effectivement, complètement. Complètement. J'ai eu peur de passer pour la personne à cancel auprès de la communauté. Même si pourtant la communauté queer, non-binaire, et même au sens large, la communauté LGBTQI+++, évolue en fait avec le temps et devient de plus en plus ouvert avec les questions de transidentité justement. C'est vrai que c'est quelque chose qui a pu
te freiner.
Me freiner, effectivement. Mais même en dehors de la communauté LGBTQ+, parce que c'est vrai qu'auprès de mes parents, ça a été un petit peu délicat, parce que ça a toujours été sous-entendu, en fait, du fait que voilà, je m'exprimais d'une façon non conventionnelle pour eux. Ils ont eu des doutes en fait. Ils m'ont dit quand j'ai fait mon coming out auprès d'eux, ils m'ont demandé est-ce que t'es sûre, tu vas pas le regretter. C'était presque perçu comme une phase en fait, genre voilà.
Ça va te passer. Quoi.
Ça va me passer quoi. J'ai dû beaucoup travailler avec eux pour leur faire comprendre que non, ce n'est pas une phase. Si j'en viens à l'exprimer, c'est que je suis au clair avec moi.
Surtout que je précise quand même que t'as fait le choix, alors tu me corriges si je me trompe, hein, mais t'as fait le choix de faire ton coming out à tout le monde d'un coup, avant d'en parler à tes parents isolément, etc. T'as fait un post, une story Insta, où t'as exprimé ça à tout le monde et après t'es allé dans le détail avec les personnes singulièrement. C'est
ouais,
ça, hein.
Oui, effectivement. J'avais fait mon coming out auprès de ma famille, mais vraiment très proche, hein, mes parents et mon frère. Mais oui, j'ai fait une story, effectivement, sur mon compte Instagram où j'ai fait mon coming out transgenre. Et
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta tête, Sacha ? Honnêtement, c'est le coming in qui avait suffisamment mûri ? Tu t'es dit, c'est le bon moment ? C'est quoi qui t'a donné le déclic de te dire, allez, ce soir, je suis suffisamment au clair avec moi, je suis émue quand j'en parle parce que vraiment ta story, elle m'a chamboulée, enfin ça m'a fait quelque chose. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah allez, c'est ce soir, c'est pas demain, je remets plus à demain, là je suis au clair avec moi.
Bah, c'est exactement ça, je me suis dit, c'est le moment, maintenant il faut que je le fasse parce que je suis au clair avec moi, j'ai plus aucun doute, j'ai plus envie d'avoir peur en fait du processus ou d'avoir peur du regard des autres, j'ai besoin que ça sorte. En fait, en le verbalisant auprès de mon entourage, c'était comme si je l'avais concrétisé, écrit dans la pierre, c'était voilà, ça y est, maintenant j'entreprends ma transition, tout le monde est au courant, moi en première, et ouais, c'était le moment, c'était le moment.
C'était le moment. Mais c'est rigolo de voir quand même comment la communauté queer peut être autant un tremplin, je pense, pour prendre conscience de certaines choses, mais parfois, sans s'en rendre compte, à force de codification des choses, à force de donner des critères qui peuvent être perçus, je dis pas qu'ils le sont, mais je dis qu'ils peuvent être perçus comme assez rigides par rapport à certaines choses, bah, ça peut être un frein. Pour toi, Coco, j'ai l'impression que ça a été vraiment un tremplin. J'ai l'impression qu'en commençant à côtoyer la communauté queer, tu t'es entouré de personnes qui t'ont fait te sentir suffisamment crédible et légitime. C'est quoi qui s'est passé dans ta tête ? Comment ça s'est fait, ce processus-là ? Je sais que chez toi, l'art du drag a énormément aussi joué dans cette prise de conscience. Les personnes dont tu t'es entouré, comment ça s'est fait ?
Ben, pour le coup, ouais, c'était un peu... Pour une fois, c'était différent du parcours de Sacha. Comment ça s'est fait ? Bon, ça fait un petit moment, justement, par la fréquentation des personnes queer, justement, que j'ai cheminé là-dessus. Bien sûr, il y a eu la question de la légitimité par rapport à la communauté queer, mais en fait, je me rends compte qu'en fait, c'est la communauté queer et en fréquentant les personnes queer que je me suis senti légitime, parce que quand j'ai décidé d'annoncer clairement à mes proches ma non-binarité, enfin, ça s'est fait pareil, un peu en décalage, on va dire. D'abord, je me suis juste... j'ai fait mon coming in et après mon coming out en tant que personne non-binaire, et ma transidentité FM est venue un peu plus tardivement, justement avec le drag, parce que l'art du drag est un art qui performe les genres, et du coup c'est en travaillant là-dessus que je me suis rendu compte, ça a posé les jalons et ça a mis au clair vraiment ce que je ressentais en moi, et ça a été un vecteur qui m'a permis de vraiment mettre au clair la manière dont je me percevais, dont je me sentais. Mais alors, pour le coup, les questions de transidentité et de légitimité quant au parcours médical ou non, je trouve qu'elle se pose beaucoup plus, à mon sens et dans ce que je perçois, au niveau des milieux cis que des milieux queer. Puisque quand on voit à la télé, etc., etc., quand on parle de personnes de personnes transfemmes, on parle de femmes trans. Donc déjà, le côté non-binaire est un peu plus invisibilisé. Mais aussi, on met l'accent sur des parcours de transition médicalisés, alors qu'en fait, déjà, tous les parcours sont différents, et que n'y a pas besoin de transition forcément médicalisée pour être femme trans, en fait. Et ça, on l'oublie aussi. Enfin, on l'oublie. Dans ce qui est véhiculé sur les réseaux, dans les médias, on met beaucoup l'accent sur la transition médicalisée, alors qu'il y a des transitions juste d'expression de genre, des personnes qui n'ont pas forcément de dysphorie quant à leur morphologie, etc. Et du coup, j'ai l'impression que, en fréquentant le milieu queer, je me suis rendu compte que...
Que c'était OK.
Ouais, c'est beaucoup plus OK dans ce que je perçois et dans ce que j'ai vécu dans la communauté queer, c'est beaucoup plus OK. Oui, pour l'anecdote, dans la communauté queer, on m'a jamais dit « Ah, est-ce que tu es en transition médicalisée ou pas ?» Enfin, alors que c'est déjà arrivé quand j'ai parlé, par exemple, à des hommes cis, que j'étais une personne non-binaire transfemme, on m'a déjà posé la question « Ah, tu es sous oestrogène ?»
Mais c'est rigolo, là, ce que tu dis, parce que de même que chez certaines personnes, les critères, les codes queer peuvent être un frein, j'ai l'impression que chez toi, la notion de safe place a pris vraiment tout son sens. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment le fait de te sentir safe qui a joué chez toi sur le fait de t'autoriser. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'avant, ce qui t'empêchait d'exprimer ça ou de te l'avouer clairement, c'était pas le fait de pas te sentir en sécurité. Enfin, je sais, je te connais assez pour savoir que chez toi, la notion de se sentir en sécurité joue beaucoup dans ton rapport à la transidentité.
Oui, tout à fait, parce que par exemple, je ne suis pas out à mon travail, je ne suis pas out dans ma famille. Il faut vraiment que je sois disposé psychiquement pour avoir une expression de genre très féminine, parce que sortir dans la rue, j'ai encore du mal à pouvoir avoir une expression de genre féminine. Enfin, ça m'arrive, mais il faut que je sente que je sois en capacité à, si je me prends une réflexion, une remarque, un regard, etc., il faut que je sente que je suis en capacité de l'encaisser. Et je pense que ça, c'est une réalité aussi des personnes queer et notamment des personnes trans. Il y a toute cette problématique-là qui est, mine de rien, très pesante au quotidien parce que ben, on sait jamais trop comment la journée va se passer, en fait.
C'est quelque chose que tu as l'impression de vivre, toi, Sacha, cette espèce de crainte pour ta sécurité en tant que personne, que femme trans. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu jouer dans le fait de peut-être retarder un moment, le fait de vouloir t'assumer? Est-ce que c'est un paramètre qui est entré en jeu, la notion de sécurité dans l'espace public, tout simplement?
Alors oui, tout à fait. Oui, ça a été vraiment un critère qui m'a un peu retardé sur ma transition, tout simplement. Mais là où, effectivement, je ne rejoins pas tout à fait Coco sur le sujet de la communauté queer. C'est vrai que moi, pour le coup, depuis mon coming out en tant que femme transgenre, je me suis éloignée en fait de la communauté queer non binaire parce que j'ai eu beaucoup de reproches. En fait, vu que je me considère en tant que femme transgenre, les personnes de la communauté ont tendance à me dire oui, bah voilà, t'es entrée dans la binarité des choses, tu as choisi d'être une femme. Et parfois, c'est un peu vécu comme des reproches ou comme une certaine
oppression,
oui. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai aussi un petit peu... Je me suis éloignée de cette communauté parce que je me sentais plus autant en sécurité qu'avant. Parce que c'est devenu... J'ai pas envie d'utiliser le mot sectaire, mais très carré et très... Alors que pourtant, c'est une communauté qui est très ouverte sur les idées d'expression, voilà, de thématique queer, d'expression de genre, d'expression d'identité... mais c'est vrai que je me suis retrouvée très bloquée une fois que j'ai entrepris ma transition en tant que femme transgenre.
Mais ça, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui le perçoivent. Enfin, moi, des gens que je fréquente, ça va être plutôt des queers assez punk, hein, les milieux punk, queer, remettent beaucoup en question un peu ce côté très politiquement correct de la communauté queer qu'on peut trouver par moment. Je pense qu'il faut quand même faire la distinction entre le fait d'avoir besoin à un moment donné de cadrer des choses dans un souci militant. Là où je te rejoins, c'est que quand ça devient une espèce de... pas de chasse aux sorcières, mais quand ça devient une espèce de grille de lecture ultra rigide à partir de laquelle il faut tout voir, il y a un côté quand même dans la communauté queer, on va pas se mentir, où on a l'impression que si on coche pas les cases parfaitement, on risque une espèce de call-out ou de cancel permanent. Mais effectivement, j'ai l'impression que c'est quand même en train de bouger. J'ai vraiment l'impression que c'est quand même un sentiment qui est partagé par énormément de monde au sein même de la communauté queer, qu'il s'agisse de femmes transgenres, de personnes non-binaires ou de personnes d'hommes trans, de personnes transmasques. Je pense que on est nombreuses et nombreuses à avoir ce sentiment-là et à avoir un petit peu la volonté de faire bouger les choses, ce qui me paraît très simple, parce que des fois, c'est vrai qu'on entend des choses qui sont assez délirantes sur des personnes qui n'ont même pas 20 ans, qui se font cancel parce que ben, les bons mots n'étaient pas employés. Il y a une absence par moment d'intelligence du cœur, de compassion, quand on voit que certaines personnes qui sont d'autres générations, qui ont 40-50 balais, se font juger sur un certain langage utilisé, sur une certaine difficulté à avoir les bons codes, à employer les bons mots, c'est quand même préoccupant. Là, on est sur une question de compassion, de manque de compassion, de manque de compréhension de qui est l'autre et d'où parle l'autre. Et je pense vraiment qu'au sein de la communauté queer, autant des femmes trans, des non-binaires que des hommes transgenres aussi, on ont ce sentiment. On n'a pas beaucoup là, parlé des transmasques, aussi parce que je préfère qu'on évite de parler de choses qui ne nous concernent pas directement. J'ai pas envie de parler à leur place. Pour autant, faut pas les invisibiliser. Et c'est aussi des personnes qui essayent de faire bouger les choses à ce niveau-là, parce qu'il y a des prises de conscience à différents niveaux, j'ai l'impression.
Mais je pense qu'en fait, il y a... ce qui est dommage, c'est que on parle de communauté, et je pense qu'en fait, c'est peut-être là que le bât blesse, c'est-à-dire que on parle de communauté queer, mais en fait, donc effectivement, il y a des choses qui nous rassemblent par rapport à toutes les oppressions systémiques qu'on peut vivre, mais il faut pas oublier aussi que les parcours sont différents, que les individus sont différents. Et que dans la communauté queer ou communauté LGBTQIA+, justement, c'est pluriel. Et des fois, on a peut-être un peu de mal à avoir tellement envie de faire corps qu'on oublie parfois à se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire que, il y a des oppressions communes, ou en tout cas, il y a une oppression systémique vis-à-vis de cette communauté. Et d'autres d'ailleurs. Enfin, elles s'expriment pas de la même manière quand on est une femme trans, quand on est une personne non binaire, quand on est une personne cis homosexuelle, transmasque. On vit pas les mêmes types d'oppression. Et du coup, je pense que c'est des fois ça qui peut générer un décalage et une incompréhension. Parce que par exemple, les femmes trans vont être victimes de transmisogynie. Les non-binaires vont avoir, j'ai l'impression, à mon sens, beaucoup d'invisibilisation. Enfin voilà, il y a plein de... C'est des oppressions, mais elles s'expriment différemment dans la société. Et du coup, si on n'y prête pas attention, même entre nous, on peut continuer à véhiculer ces oppressions, en fait. Dans ton discours, j'ai un peu l'impression que le fait que t'aies pendant été un temps une personne perçue comme non-binaire, le fait que tu affirmes que tu es une femme trans, pour beaucoup, peut-être, là c'est une supposition, mais pour beaucoup, c'était peut-être comme un peu un sentiment de trahison, de se dire, mais, enfin, tu vois, dans leur tête, c'était, mais tu étais non-binaire, tu avais, entre guillemets, tu avais tout compris, et maintenant tu retournes dans un schéma binaire.
Elle nous a menti.
Alors qu'en fait, c'est des processus. Et puis, il ne faut pas aussi oublier que ça soit l'orientation sexuelle, que ça soit le genre. Sur toutes ces questions-là, on est des personnes vivantes, on est des personnes mouvantes. Et que tout ça, ça évolue au fil du temps et de qui on est, des expériences qu'on traverse. Et que la manière dont on vit les choses aujourd'hui, ce ne sera pas la même que comment on va la vivre... ou pas, hein, peut-être qu'on va rester sur cette ligne parce qu'elle nous convient, ou on va encore en changer. Et c'est complètement OK, en fait. C'est un peu paradoxal, en fait. C'est qu'à la fois, il y a cette ouverture, cette compréhension, les gens sont quand même très alertes sur les pronoms, sur le fait du consentement, d'essayer d'être le moins discriminant possible. Et pourtant... Après, il s'agit... En fait, c'est ça le paradoxe, c'est qu'il faut toujours faire attention. On sait que la déconstruction, elle prend du temps et elle n'est jamais finie. Et en même temps, je pense que là où ça devient compliqué, c'est qu'il y a une espèce de pureté militante qui est en train de s'implanter et qui peut être très dangereuse et délétère si on n'y prend pas garde, parce que du coup, on peut, sans le vouloir, au nom de cette pureté militante, avoir un système oppressif.
Et autodestructif.
Alors qu'en fait, on devrait juste être dans l'écoute et l'acceptation quand une personne nous dit je suis une femme trans, je suis une personne non-binaire, je suis une personne non-binaire transfemme, je suis une personne transmasque, enfin, peu importe en fait. Et le prendre en acte dans la manière dont on côtoie la personne, et ça devrait s'arrêter là. Et alors, je sais que pour beaucoup, il y a quand même cette envie qui est là, et je pense que c'est ça aussi qui fait bouger les choses, parce que chacun une à son niveau, vit des fois ces moments dans la communauté où elle n'a pas le sentiment d'être validée, reconnue, ou se prend des remarques, et je pense que du coup, c'est ça aussi qui permet de faire bouger les lignes et de faire prendre conscience des choses.
Moi, quand je t'écoute, la Coco, il y a un truc qui me qui me marque beaucoup, c'est que on sait, si on a un petit peu étudié la question du genre et qu'on ne la prend pas par-dessus la jambe avec tout un tas de stéréotypes comme le font les 6-7, hein, que l'on salue, mais de loin.
Bonjour.
On sait que la rigidification des catégories de genre va de pair avec des rapports de pouvoir. On sait que ça va de pair avec le colonialisme occidental. On sait que si l'Occident a tellement tenu à rigidifier les rapports hommes-femmes, ça vient notamment du fait que les rapports hommes-femmes sont des rapports de domination qui permettaient l'asservissement des uns sur les autres. Moi, ce que je ressens aussi, pour revenir vraiment à la thématique du coming in, c'est que ce qui rend la conscience de soi et l'acceptation de soi aussi compliquée, c'est que on a quand même un système politique qui fait tout pour nous conditionner, et le travail de déconstruction est super compliqué à partir de ce moment-là. Et j'ai l'impression que cette déconstruction, elle relève d'un enjeu qui est politique, évidemment, mais qui est presque, alors ça c'est un peu mon dada, mais, et vous le savez, mais qui est presque spirituel aussi. Moi je crois vraiment que aller à la rencontre de soi, c'est accepter de se regarder en se dégageant des illusions qui sont dues au conditionnement qu'on nous a mis dessus, en fait. C'est un vrai travail de recherche intérieure. C'est un vrai travail de recherche d'authenticité. Et je pense que chacune d'entre vous est capable de dire à quel point c'est difficile de traverser toutes les mailles de tous les filets qu'on nous a mis devant les yeux parce que ça a arrangé les rapports de domination, parce que ça a arrangé les rapports de pouvoir, etc., etc. Enfin, moi, je crois vraiment qu'il y a une espèce de jonction entre la question de la spiritualité, qui pour moi se résume à traverser les illusions, et la question de la déconstruction de genre, parce que ça nécessite vraiment de traverser non seulement tout un tas d'illusions qu'on se fait sur nous, mais de traverser tous les préjugés qu'on nous a mis devant le nez depuis qu'on est gamin, quoi, en fait. Hein. Je trouve que ça se remarque super bien chez toi, Sacha, en ce moment, parce que comme on en a parlé tout à l'heure et tu t'es ouverte par rapport à ça au début de l'épisode, tu nous as dit que tu as traversé des phases qui psychiquement, en termes de santé mentale, étaient super compliquées. Et ben, Coco Chapeau et moi, on était là et on peut confirmer que ça a été des périodes très, très douloureuses pour toi. Depuis que ce coming in, il est abouti, bah, t'as plus rien à voir. Enfin, je pense que tu le sens toi-même. Tu rayonnes, tu souris, tu as un épanouissement qui n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Comment tu le perçois, ça, aujourd'hui? Enfin...
Mais même moi, j'ai encore du mal à comprendre comment le déclic s'est fait aussi rapidement et aussi... enfin, du moment où ce coming in a été accepté, toutes ces choses qui me parasitaient la tête, où j'avais également des... comment dire? Depuis le coming in, en fait, j'ai l'impression d'avoir boucher les trous que je cherchais à combler depuis des années. Depuis aussi longtemps que j'arrive à me rappeler, j'ai toujours eu des soucis avec ma santé mentale, j'ai toujours été à des niveaux différents, mais toujours été dans une dépression ou un mal-être. Et c'est vrai que depuis que j'ai verbalisé le fait que oui, je suis une femme transgenre, tout a été mis à zéro. C'est comme tabula rasa. Je me sens enfin être une base solide, un roc. Rien ne peut m'arrêter. Je cherche plus à combler ce trou que j'avais au préalable. Et c'est quelque chose que j'arrivais pas à comprendre, parce que c'est quelque chose que je vivais toujours dans ce mal-être, mais je me disais, mais pourquoi? Pourquoi je suis pas bien avec moi-même? Pourquoi je... Et depuis, c'est des questionnements que je n'ai plus. Et,
ouais. Et ça se caractérisait... chez toi, par des mécanismes... Enfin, je sais pas si t'es à l'aise d'en parler là, mais je sais que ça se caractérisait chez toi par des mécanismes déjà d'addiction.
Oui.
Des mécanismes de dysfonctionnement relationnel assez quand même profond, qui t'ont beaucoup déstructuré, qui t'ont entraîné dans des relations où tu t'es aperçu que tu t'es pas respecté. Et une des premières choses que tu m'as dit, que tu m'as dites quand t'as fait ton coming out, c'est que là, t'avais enfin envie de te respecter.
Mmh, exactement. J'ai été comme apaisée. En fait, si on en parle justement des relations, bah, que ce soit amoureuse, même amicale, hein, je cherchais justement, par le biais de ces relations, à combler ce trou que j'avais en moi. Et aujourd'hui, j'ai une relation plus saine avec les gens qui m'entourent, parce que j'ai plus cette dépendance affective, en fait. Je ne recherche plus le bonheur à travers les autres. J'ai trouvé le bonheur en moi-même depuis que j'ai compris, que j'ai verbalisé les choses.
T'as trouvé une forme d'autonomie, en fait.
C'est ça. Je trouve mon bonheur en moi-même. C'est moi qui me l'apporte, et moi toute seule. Et j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour m'amener ce bonheur. J'arrive à... Oui, une autonomie et... Et c'est fou comme en si peu de temps il y a eu ce déclic. Je me sens plus apaisée avec moi-même et plus apaisée aussi avec les gens qui m'entourent et les relations que je côtoie, en fait, tout simplement.
Coco, ça c'est un truc qui te concerne tout autant, je pense, parce que la plupart des gens qui te fréquentent, chacune de ces personnes, globalement, t'as quand même fait un retour en te disant ces derniers temps, t'as l'air changé. On voit que le fait de t'être mise au drag, le fait de t'épanouir là-dedans a vraiment changé beaucoup de choses pour toi. Les gens te sentent beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus épanouie. Est-ce que tu arrives à avoir du recul sur tout ce que ça a bouleversé chez toi ? Est-ce que tu as l'impression que le fait d'être plus au clair avec toi sur ton identité de genre et le fait d'avoir été un peu plus loin dans une forme de coming in, t'as en fait ouvert au monde ?
Oui et non. je suis pas au même endroit que Sacha. Alors effectivement, moi ce qui m'a sauvé, il n'y a pas d'autre mot, c'est le drag. Ça m'a permis d'exister, en fait, tout simplement, à travers ce persona, cet alter ego qu'est Coco Chapeau, où j'ai pu vraiment... commencer à exprimer et exorciser les choses que j'avais en moi et de vraiment trouver ma place, que ça soit artistiquement et socialement, ou justement en moi-même. Coco Chapeau m'a permis de mettre au clair qui j'étais, et elle continue encore de le faire, et elle évolue constamment comme moi j'évolue aussi constamment. Mais elle m'offre une base solide et en même temps un panel et une ouverture de possibilités d'évolution, de recherche, c'est ça que j'adore, moi, dans mon drag, c'est que dans la manière dont moi je perçois mon drag, c'est que Coco Chapeau, elle sera jamais finie, en fait. Il y aura toujours à explorer, et elle m'aide à la fois à soigner des blessures passées et à la fois à prendre conscience des choses dans le temps présent et à me projeter dans l'avenir. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est génial, parce que le passé, je n'osais pas m'y confronter. Aujourd'hui, je peux le faire avec de la manière dont j'ai envie de l'exprimer, que ce soit avec des performances plus intimes. Je peux utiliser de la poésie, je peux utiliser de l'humour, ou je peux utiliser du tragique. Ce qui est génial avec le drag, c'est qu'il n'y a pas de... Parce que j'ai fait beaucoup de théâtre. Mais le théâtre, en tout cas dans l'approche que j'en avais, me limitait parce que c'est un rôle, un texte ou pas de texte, mais c'était pas un média qui me permettait d'aller là où j'avais envie d'aller. Le drag, dans son essence, qui est politique et qui est sur la question du genre, est quelque chose de beaucoup plus... Enfin, je dis pas que le théâtre n'est pas intime, mais ça se joue pas aux mêmes endroits. Et je pense que le drag était le média idéal pour moi pour pouvoir exprimer et conscientiser qui j'étais. Et en ça, ça a été l'élément central de mon coming in, en fait. C'est en performant Coco Chapeau que, entre guillemets, le persona a rencontré la personne. Et où je me suis dit, mais en fait, là, le persona que j'ai créé, en fait, il y a une grande partie qui n'est pas qu'un persona, et où, en fait, autant il y a des personnes qui vont peut-être créer des... Il y a toujours un lien, mais qui vont avoir quelque chose d'un peu plus éloigné. Moi, c'est pour ça que mon nom, c'est Coco, et
mon drag, c'est Coco Chapeau, en fait. J'ai un rapport très fusionnel, en fait. Elle est un peu la version, entre guillemets, idéale de moi-même, où, en fait, on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas fait mon coming out dans plein d'endroits, parce que je ne me sens pas encore en capacité de le faire, pour diverses raisons. Y a de la peur, mais il y a aussi l'envie de se préserver et de ne pas acter les choses pour ne pas avoir à devoir prendre de son énergie, de son temps, pour faire de la pédagogie, etc. Et c'est vrai que le drag, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, et même quand c'est pas le cas, ça reste du spectacle. Et donc, c'est un peu une safe place, en fait. On est protégé. Et le persona protège aussi énormément. On se sent invincible avec une fois qu'on a notre maquillage, notre costume, et qu'on est sur scène. Et puis en plus, le public... Enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir des publics juste incroyables qui donnent une énergie et qui portent et qui envoient un amour qui est juste... Waouh, ça, j'étais pas prête. Du coup, voilà, c'est vrai que ça a joué un rôle déterminant dans mon coming in et aussi dans mon coming out, parce que du coup, parmi les premières personnes à qui j'ai fait mon coming out, c'était les personnes avec qui je faisais du drag. Mais je sens que moi, à mon endroit, pour rebondir sur ce que disait Sacha, moi, je ne suis pas encore totalement dans une complétude à cet endroit-là, pour plusieurs facteurs. Déjà, il y a le facteur personnel où... Alors là, je suis une personne non-binaire, transfemme, et ça me convient. Est-ce que ça va être mouvant? J'en ai l'impression, on verra. Après, je m'informe beaucoup, j'ai à cœur de m'informer beaucoup, et du coup, malheureusement, on tombe aussi sur plein de nouvelles et de situations, de témoignages, etc., qui sont assez violents. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce côté-là où ma sensibilité propre fait que j'ai un peu plus de mal à assumer pleinement qui je suis pour me protéger, en fait, pour le moment. Ça évoluera peut-être. Après, je le vis bien, enfin, je me sens bien parce que je sais que j'avance et ça, c'est positif et je sais que ça va continuer d'avancer. Mais c'est aussi une réalité des personnes trans. Et il faut en avoir conscience que... Ouais, y a une forme de violence dans notre monde. Et moi, j'admire, enfin, vraiment, quand je vois Sacha, effectivement, c'est le jour et la nuit, on en a parlé. Et la voir comme ça aujourd'hui, c'est hyper porteur. Ça fait du bien, mais pour elle, je pense, mais aussi pour tout l'entourage. Je sais pas si elle s'en rend compte, mais c'est vraiment... Waouh, quoi, c'est lumineux et ça porte, ça fait du bien.
Pour ma part, j'ai décidé de vêtir l'habit de lumière au quotidien. c'est vrai que j'ai eu ce blocage aussi, moi, par peur pour ma sécurité, tout simplement. Mais j'ai décidé de juste arrêter d'avoir peur et vivre comme bon me semble. Parce que c'est ça qui me rend heureuse, en fait, au final. Et au diable, comment l'entourage peut l'entreprendre, enfin, le capter. Je vis pour moi, pour mon bonheur, pour mon futur. Et tant pis si ça plaît pas autour.
Écoutez, les girls, moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ce que j'entends, pour l'honnêteté, l'authenticité de la façon dont vous exprimez les choses. Je pense qu'on voit à quel point un coming in, c'est un processus qui est extrêmement long, qui met en branle des mécanismes qui touchent à ce qu'il y a peut-être de plus intime en nous, qui touchent à notre relation à nous-mêmes, à notre relation aux autres, qui touchent à la peur, qui touchent au désir, qui touchent à l'amour. Et à l'amour pour soi, peut-être, avant tout. Peut-être en guise de conclusion de cet épisode, il y a sans doute des personnes qui nous écoutent et qui sont aussi dans ces processus-là, qui sont en questionnement, qui ne savent pas trop, qui ont des freins. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Je ne dis pas forcément leur donner des conseils, mais juste qu'est-ce que vous auriez à exprimer à ces personnes, Sacha, pour commencer.
Ce que j'aurais à dire à ces personnes, tout premièrement que je comprends par quoi toutes ces personnes passe et que à quel point ça peut être compliqué et dur parfois, qu'il faut savoir s'écouter dans un premier temps, vraiment savoir s'écouter, savoir s'exprimer, pas forcément avec les autres, avec soi-même, arriver à se comprendre, à se chercher, à... Ce que j'aurais à leur dire, c'est que vous n'êtes pas seul. Je comprends très bien par quoi vous passez et je sais très bien le cheminement de la pensée et à quel point on peut se triturer le cerveau avec ce cheminement qui prend du temps, qui prend vraiment du temps. Je pense que c'est important de...
D'accepter de le prendre ce temps.
D'accepter de le prendre ce temps, exactement. Et c'est oui, c'est important de le prendre ce temps parce que il y a besoin d'avoir une réflexion, de prendre le temps de vraiment se poser des questions, de se découvrir. Parfois, on peut se perdre. Ça nous est toutes et tous déjà arrivé. Mais c'est normal. C'est normal de se perdre. Et parfois, c'est même nécessaire. Ouais, je pense que l'important dans tout ça, c'est de prendre son temps et de se dire que c'est ok de prendre le temps pour se trouver, pour se chercher, se poser les bonnes questions. Et oui, même moi, qui a l'air d'avoir trouvé sa voie, et enfin, je suis toujours en cheminement, je suis toujours dans la réflexion, toujours en train de me découvrir tous les jours, comme n'importe qui. Et c'est normal, c'est ok, c'est ok, c'est ce que j'aurais à dire.
Un jour, quelqu'un m'a dit que c'est quand on se perd qu'on peut enfin trouver des trésors, parce que quand on reste sur les sentiers battus que les autres ont choisis pour nous, il n'y a plus rien à trouver, tout le monde est déjà passé par là. Il faut trouver sa voie, sa propre voie. Et c'est ce qui me parle beaucoup dans ce que tu dis. Qu'est-ce que tu aurais, toi, Coco Chapeau, à dire aux personnes qui sont en face de questionnements par rapport à toutes ces questions-là et qui sont peut-être dans le désarroi ou la perplexité?
Bon courage. C'est des chemins qui sont pas évidents parce que ça regroupe tellement de choses. Il y a le rapport à soi, il y a le rapport aux autres. Mais justement, je pense que la solution, elle vient un peu de ces deux-là. Il y a le fait de, comme tu l'as dit, de prendre son temps, de cheminer, et ça, je te rejoins complètement. Et il ne faut pas avoir peur de... Enfin, on ne peut pas se tromper quand on parle de nous-mêmes, mais parce que ça évolue, c'est... Enfin, quand bien même, à un moment donné... Enfin, même si on a besoin de passer par des étapes, comme moi j'ai pu le faire, même si on a besoin... que ce n'est pas forcément des choses très justes, mais c'est même si c'est juste le fait d'être un tout petit peu plus confortable pendant un temps, le temps qu'on arrive ensuite à passer par autre chose et ainsi de suite, progressivement, c'est ok. Si on a besoin d'y aller d'un coup, on sait ce qu'on veut, on sait qui on est, pareil, c'est ok. Et surtout, c'est pas toujours évident, malheureusement, mais s'entourer, c'est quand même une des clés, je pense, qui aide. Parce que même si les autres n'ont pas à définir qui vous êtes, avoir des personnes à qui en parler, avec qui en discuter, avec qui être écouté, être compris, comprise, ben ça aide, mine de rien, à tenir quand on est dans le chemin. Tant qu'on est un peu dans le flou, on va dire que ça peut aider d'être entouré quand on a du mal à être avec soi. Et donc, c'est pour ça que j'aime pas trop la phrase il faut s'aimer pour aimer les autres, enfin, pour être aimé, et non. L'amour qu'on se porte peut aussi venir des autres. On peut être aimé même si on a du mal avec soi-même, mais faut pas, comme tu l'as dit, que ça tombe dans une espèce de dépendance où c'est les autres qui vont dire qui on est. Ça, on peut pas. Mais pour apprendre qui on est, le regard de l'autre, l'écoute de l'autre dans la bienveillance, et c'est là que c'est compliqué de trouver les bonnes personnes. Mais il ne faut pas hésiter, en fait, quand on sent qu'on est face à ce genre de personnes, de pas avoir peur, en fait, et de briser les silences. Je pense que, ouais, si j'avais un conseil, ce serait ça, c'est briser le silence. Parce qu'en fait, le silence, je pense que c'est, pour ça, c'est le pire des poisons. C'est quelque chose qui nous ronge. Et justement, comme tu le disais, scandale, tout le système a intérêt à nous faire taire, en fait, parce qu'on le met en branle et ça lui plaît pas. Donc, briser le silence, c'est surtout ça que j'aurais comme conseil.
Eh ben, merci à toutes les deux. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir partagé avec autant d'honnêteté et d'authenticité vos parcours, vos réflexions, vos doutes aussi. Vraiment merci du fond du cœur. Ça m'a fait du bien de vous écouter. Et je suis persuadée que les personnes qui nous écoutent auront du grain à moudre avec tout ça. Et d'ailleurs, bah, il ne me reste plus qu'à donner rendez-vous à ces personnes qui nous ont écoutés pour un prochain épisode à venir. On espère que vous serez au rendez-vous. Et merci.
Merci beaucoup. On attend vos retours.
Et abonnez-vous, wesh.
Merci.
Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est @notallqueer.
La décadence.
Not all queer.
La décadence.
Not all queer.